Donc je voudrais d'abord remercier Jean-Vincent pour l'invitation. C'est la troisième fois que tu m'invites dans des lieux différents, donc je suis vraiment ravie à chaque fois de pouvoir venir parler de mon travail. Je remercie également Jean-Claude Monod qui accepte de discuter avec moi. Et je remercie Olivier Beau, qui est le directeur de cet institut, d'avoir accepté l'organisation de ce séminaire un peu à brûle-pourpoint au dernier moment. Merci à Philippe Reynaud aussi, qui était là déjà lors de la parution de la guerre civile mondiale, d'être venu aujourd'hui. Je voudrais simplement, alors pour commencer, puisqu'on parle de la redécouverte de Schmitt en France, je voudrais juste dire un mot sur les circonstances de l'écriture de cette thèse et du choix du sujet. J'ai commencé cette thèse en 2005, que j'ai soutenue en 2009. Je crois que je n'aurais pas pris un sujet sur Carl Schmitt, une thèse unique qui porte uniquement sur Carl Schmitt, si je n'avais pas été en Allemagne. Je crois que si j'avais été en France, la plupart des professeurs français m'ont déconseillé de le faire, notamment Olivier Beau. Pour les raisons de carrière, ce n'était pas du tout une bonne stratégie. Il ne fallait surtout pas le faire. Il n'y a qu'un professeur qui m'a dit « il faut le faire », c'était Pierre-François Moreau. Mais à l'époque, tout le monde, même Catherine Colothéenne, qui a dirigé ma thèse, considérait que c'était des risques insensés de faire une thèse de philosophie uniquement sur Carl Schmitt. Donc j'étais loin de penser qu'il y aurait publication, etc. En Allemagne, c'était un petit peu différent la situation, parce que Carl Schmitt est évidemment beaucoup critiqué, mais c'est quand même devenu un classique de la pensée juridique et de la pensée... La pensée juridique et de la pensée et des sciences politiques. En philosophie, c'est différent, mais il y avait des séminaires sur Schmitt uniquement à la Humboldt Université de Berlin, donc ça paraissait quasiment normal de parler de Schmitt comme d'un classique. Donc il y avait un décalage entre la France et l'Allemagne. Voilà. Autre chose que je voulais dire, juste avant de commencer, c'est qu'en fait, les textes de droit international de Schmitt étaient seulement en train de paraître, même en Allemagne. Par exemple, il a écrit énormément de textes courts, Carl Schmitt, en droit international. En fait, la plupart de ses textes de droit international sont des textes courts. Le recueil, par exemple, le dernier gros recueil qui s'appelle Frieden oder Pacifismus, qui n'est pas traduit en français, La paix ou le pacifisme, est paru en 2005. Donc c'était vraiment une période où les textes commençaient simplement à émerger et à être publiés. Les positions... je crois que je prenais à rebrousse, dans la pensée française, mais ce n'était pas volontaire, je crois que je prenais à rebrousse-poil deux idées que j'ai entendues étant en France, que je n'ai jamais entendues en Allemagne. Deux idées, la première, c'est qu'il n'y a pas de théorie du droit international chez Schmitt. Alors ça, je l'ai entendu de la part de juristes internationalistes souvent, c'est-à-dire que les professeurs de droit international en France ignoraient le fait qu'il y a... le nomos de la terre venait d'être traduit, mais n'était pas beaucoup lu, et ignorait qu'en fait c'était une pointe de l'iceberg. Derrière, il y avait tout un tas de textes qu'il avait été professeur de droit international et qu'il avait énormément publié sur ce sujet. Donc encore en 2007, je me souviens, c'est des choses que j'ai entendues plusieurs fois de la part de... Et c'est en train de changer en France, puisque Serge Sûr notamment, qui est quand même une référence en droit international, se met à publier ou à faire des ouvrages collectifs sur le droit international chez Schmitt. Donc ça, c'est très récent. Deuxième idée le fait qu'il y ait un droit international chez Schmitt, j'ai pas besoin de me battre pour le prouver, c'est assez clair. La deuxième idée, je sais qu'elle est beaucoup plus disputée, mais l'idée qui n'est pas évidente du tout, c'est que j'ai considéré qu'il y avait une épistémologie schmittienne ou une théorie de la vérité schmittienne. C'est-à-dire que j'ai considéré que l'œuvre de Schmitt, qui est un juriste, était justiciable d'une analyse philosophique rigoureuse, même si il fallait la reconstruire et qu'il fallait une intervention épistémologique peut-être de la part du commentateur pour déclarer qu'au fond Schmitt n'appartient pas seulement de l'irrationalisme romantique ou de l'opportunisme, qu'il y a des principes, qu'il y a une cohérence, qu'on peut parler d'une épistémologie chez Schmitt. Donc ces deux idées-là faisaient que c'était pas exactement évident de les... Certains m'ont dit que mon sujet de thèse n'était pas, il n'y avait pas d'objet à mon propos, parce qu'il n'y avait pas d'épistémologie schmittienne, puis il n'y avait pas de droit international. Donc c'était un peu des choses abruptes qui m'ont toujours étonnée dans le décalage entre le débat allemand et le débat français. L'autre chose, alors pour présenter un peu les trois, enfin quelques principes qui ont dirigé ma méthode, j'en citerai trois et je les donne au début de la première partie. Ce n'est pas des principes que je me suis donné consciemment avant de me mettre au travail, c'est que j'ai découvert petit à petit que c'est selon cette règle-là que je travaillais. J'ai décidé, contrairement à Emmanuel Pasquier, mais ce n'est pas du tout pour. Qui est un ami et dont je travaille, je respecte beaucoup le travail. J'ai décidé non pas de partir du Methodenstreit avec Kelsen pour analyser la pensée du droit international de Schmitt, c'est-à-dire que j'ai décidé non pas de partir de l'opposition des méthodes et des écoles pour essayer de comprendre ce que faisait Schmitt. Il me semblait que, enfin, c'est ce que j'ai fait, c'était même pas conscient, je suis partie de la description de petites différences entre Schmitt et les juristes de son propre camp, c'est-à-dire les juristes anti-kelséniens, les juristes qu'on a appelés parfois décisionnistes, qu'on a appelés parfois les schmittiens, qui recouvrent, enfin, qui désignent des gens comme Erich Kaufmann, Rudolf Smendt, et aussi Hermann Heller, même s'il n'est pas dans le même camp politique. Donc ma méthode a été de ne pas surestimer justement les problèmes de méthode et les conflits de méthode. Il me semblait qu'en droit international, ce n'est pas ce qui avait été décisif. En tout cas, ce n'est pas comme ça que j'ai abordé les choses. Le deuxième point de ce qui a été ma méthode que j'ai découverte en marchant, en écrivant, en travaillant, c'est qu'en fait, j'ai pris en compte non seulement la crise politique de l'Europe, notamment dans les années 20, enfin, dans les années 20, mais j'ai pris aussi en cause la crise des savoirs et ce qu'était la répartition des savoirs à l'université et le rapport entre les disciplines, donc pas seulement le droit, mais aussi l'histoire. Je parle pas mal de ce groupe d'historiens qui était le groupe d'historiens dominant depuis la fin du XIXe siècle, qui s'appelle les néo-rankiens, donc qui étaient sous l'influence de la figure de l'historien Rank. Et je découvrais notamment qu'il y avait l'histoire qui était une discipline dominante par rapport à d'autres dans les sciences humaines en Allemagne. Je découvrais que tout ce que dit Schmitt dans la notion de politique, qui est très connue, le primat, enfin de la définition du politique comme opposition de l'ami et de l'ennemi, je découvrais qu'en fait, ça transcrivait dans le langage de Schmitt, donc du droit ou de la science politique, des choses qui étaient évidentes, qui étaient des axiomes pour les historiens, mais depuis des décennies, notamment ce qu'on appelle, depuis des détails, pour caractériser la pensée de Rank, le primat de la politique extérieure. Donc ce qu'on considérait en France comme étant un axiome un peu fou, un peu et très individuel, une sorte d'idiosyncrasie de la part de Schmitt, je découvrais qu'en fait c'était des principes partagés par les professionnels de l'histoire et que les juristes reprenaient en partie. Donc j'avais décidé de regarder de parler de Schmitt, mais pas seulement de lui tout seul, de voir ce que faisait le groupe de juristes autour de lui, de voir ce que faisait le droit par rapport à l'histoire, et d'essayer de regarder ce que c'était que le statut du droit et de l'histoire qui étaient des sciences dominantes dans les sciences humaines par rapport à d'autres sciences qui n'étaient pas du tout légitimées dans l'université allemande, qui étaient la sociologie et l'économie, hein, qui étaient des sciences un peu problématiques. Il me semble que ça éclairait bien des stratégies du discours schmittien par rapport à ce qu'il faisait lui-même. Le paradoxe étant que ce sont les juristes conservateurs, donc de droite, anti-kelséniens, Smendt, Kaufmann, Schmitt, qui ont introduit la sociologie dans la science du droit dans l'Allemagne dans l'entre-deux-guerres. Donc qui ont introduit notamment la pensée de Max Weber. Ce sont eux qui ont dit il faut ouvrir le droit à la sociologie, ce qui était en fait un geste sans précédent dans la science juridique allemande, à ce qu'il m'a semblé. Donc on n'avait pas de reconduction des fronts politiques et des fronts scientifiques. C'est la première chose qui m'a frappée, c'est qu'on ne pouvait pas dire ceux qui sont conservateurs politiquement, ils sont conservateurs au niveau de la théorie. Hein. C'est au niveau de ces décalages-là que j'ai travaillé, et sans lesquels, à mon avis, on ne peut pas travailler sur Schmitt. Je remarquais notamment que la figure de Max Weber a été essentielle pour ces juristes conservateurs anti-kelséniens, mais je remarquais que derrière Max Weber, il y avait Marx. Et c'est alors Marx évidemment, c'était encore pire que Max Weber. C'était vraiment celui dont, en tant que juriste, on ne pouvait pas parler. Et donc, j'ai essayer de montrer que, mais je ne suis pas la première, et il me semble que la pensée italienne l'a découvert depuis très longtemps, ce que tout le monde ne dit pas toujours, c'est qu'il y avait, que Schmitt utilise en réalité beaucoup plus qu'il ne dit, le marxisme, le léninisme, la pensée de Lukács, les théories de l'impérialisme, etc. Donc je découvrais qu'en fait, à mon avis, une des petites différences, qui à mon avis n'est pas petite, mais entre Schmitt et les juristes de son propre camp, c'était de ne pas se limiter à l'introduction de la pensée de Max Weber dans le droit, donc à la sociologie du droit, mais c'était bien plus loin d'introduire la pensée du marxisme dans l'édifice juridique. Et il n'y a qu'un historien, dans l'entre-deux-guerres, un historien allemand, qui disait haut et fort, au fond, on ne peut pas ne pas parler de Marx, c'est Hans Rothfeld, et qui parlait, lui, d'une plateforme ou de point commun entre les Rankiens et les marxistes, hein, qui disaient, au fond, ce que Rank appelle le réalisme, la politique de puissance, au fond, on peut très bien réconcilier, on peut très bien se mettre à parler de Marx, et finalement, Marx va se normaliser au niveau dans les sciences humaines, il va falloir commencer à en parler. Politiquement, c'est impossible, c'est un brûlot, mais au niveau des sciences humaines, il va falloir que les historiens changent de méthode, parce que sinon, ils vont être complètement dépassés, et pas seulement les historiens, mais toutes les sciences humaines en général. Donc, c'était le seul en 1922 qui disait ça, qui disait Marx est entré en contrebande, hein, dans les sciences humaines en Allemagne. Le troisième point de ma méthode, donc ça est, enfin de ma méthode, des choses que j'ai cru découvrir et quand j'ai commencé à travailler au fur et à mesure, c'était le fait que le droit international n'était pas une discipline constituée au moment où Schmitt commence à faire du droit international et tous ceux qui sont autour de lui, ils n'ont pas, ce sont pas des professeurs. Au départ, ils n'ont pas fait de thèse en droit international. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris le droit international à l'université. Et ils sont devenus des professeurs de droit international, mais c'était une science en train de s'établir à l'université. C'était une science jeune. C'était une discipline jeune. Et notamment, il y avait des genres scientifiques nouveaux qui naissaient, notamment l'histoire du droit international était quelque chose d'absolument nouveau. Donc il m'a semblé qu'il était important de montrer que le droit international était donc en Allemagne une science très jeune, en manque de légitimité, et qui était qui avait été construite par les libéraux au départ, à la fin du XIXe siècle, et les juristes conservateurs ont fait une sorte de captation d'héritage par rapport à la pensée libérale et aux juristes du libéralisme pour commencer à se permettre de prendre au sérieux le droit international. Parce qu'il n'était pas du tout évident qu'il y ait du droit international et que ce soit vraiment du droit pour les Allemands de l'entre-deux-guerres et pour les juristes. Michael Stolleis, donc, est un des meilleurs historiens du droit en Allemagne, affirme qu'au fond, c'était une porte très étroite, le fait de ne pas être un libéral et le fait de ne pas refuser, de ne pas nier l'existence du droit international. C'était pas du tout évident pour les juristes conservateurs de passer entre la négation complète du droit international et la reprise des valeurs libérales ou du droit libéral. Donc je remarquais qu'en fait il y avait eu une sorte de changement dans la production, enfin qu'il y avait un paysage mouvant autour de la production schmittienne. Parce qu'au départ, dans le groupe des juristes, et là, il y a des moments où ce que fait Schmitt, tout le monde autour de lui le fait. Il y a des tas de textes, en fait, on a l'impression que les autres juristes autour de lui font la même chose. On a l'impression qu'au départ, c'est presque du journalisme, les écrits de droit international après la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est contre le traité de Versailles, évidemment. Ce sont des textes très polémiques, très courts. Ils disent tous presque la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont ulcérés par le traité de Versailles. On a l'impression que c'est quasiment du journalisme. En droit public, ces juristes-là écrivent des œuvres, des traités. En droit international, c'est un peu... ils s'amusent. Enfin, c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus polémique. Donc, je découvrais qu'au fond, Schmitt s'est mis à inventer des concepts, hein, si on reprend l'expression de Deleuze, à inventer des concepts en droit international assez tard. Selon moi, il y a une rupture, il y a un changement de qualité dans le corpus schmittien en droit international à la fin des années 30, à partir peut-être du passage vers le concept discriminatoire de guerre. Il y a une production de concepts vraiment qui ne sont que de Schmitt, c'est-à-dire les autres juristes ne font pas la même chose, ce n'est pas simplement du journalisme, ce n'est pas simplement de la polémique, et ça se cristallise à mon avis à partir de la fin des années 30, un petit peu avant le texte sur la conférence sur les grands espaces. Bien, alors, je ne veux pas être trop longue, qu'est-ce que je voulais dire concernant le droit international, je m'arrête là. Concernant l'épistémologie, alors ce que la discussion est peut-être plus corsée, ça intéresse peut-être pas forcément les juristes. Hein. Certains m'ont dit, Pasquale Paschino notamment, ça n'intéresse vraiment pas du tout ces questions d'épistémologie sur Schmitt. Ils se demandent bien ce que j'allais faire là. Ma thèse, et là j'avais presque, en fait, j'ai découvert après coup les Italiens, donc je découvre qu'en fait les Italiens disent ça depuis longtemps. Mais moi, j'avais l'impression d'être presque toute seule pour le dire, à part qu'il y avait quand même Étienne Balibard pour me soutenir, mais qui ne faisait pas le travail pour moi. Je considérais, alors que même Jean-François Kervégan considère que la pensée schmittienne relève de l'idéalisme philosophique, hein, et dans la lignée de Hegel, donc c'est un idéalisme classique, ce qu'il m'a redit le jour de ma soutenance. Moi, je considérais que d'abord, il y avait opposition des contraires dans cette œuvre de Schmitt, et que c'était pas, il n'y avait pas d'idéalisme, qu'il était antinormativiste et anti-idéaliste au possible, mais qui avait chez lui une alliance entre ce que j'ai appelé le matérialisme et le spiritualisme. Ce qui permet de comprendre que d'un côté, il a pioché du côté de Marx, et de l'autre côté, qu'il parle de théologie. Donc, ce que j'ai cherché à faire, c'est à dégager, mais je sais bien que c'était un geste de reconstruction, et que c'est latent chez Schmitt, son épistémologie, mais j'ai essayé de comprendre pourquoi il n'en donne pas toutes les clés. J'ai essayé de dégager le matérialisme et le nominalisme de Carl Schmitt, pensant qu'il y avait aussi un nominalisme chez Schmitt, un nominalisme juridique. Hein, donc ça, ce sont des choses qui sont acceptées dans l'histoire du droit, hein, donc on parle de nominalisme juridique. La position courante, c'était la suivante, si je résume un tout petit peu. Elle consistait à dire, on veut bien rapprocher Carl Schmitt de la pensée de Hobbes, parce qu'il est étatiste, mais on ne va pas la rapprocher au point de dire qu'il est nominaliste. Moi, j'allais jusqu'à dire, non seulement il est étatiste, je veux bien qu'on rapproche de Hobbes, mais il y a aussi le nominalisme, et à mon avis, il va jusque-là. La position, d'autre part, consistait à dire, on veut bien rapprocher Carl Schmitt de Hegel, notamment grâce au livre très important de Jean-François Kervégan, on veut bien donc rapprocher la pensée de Schmitt de Hegel, parce qu'il est étatiste, mais on ne va pas jusqu'à dire qu'il y a un rapport avec la dialectique. Et notamment, la pensée de Jean-François Kervégan, c'est un des points sur lesquels je m'oppose à lui, et on sait bien qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Jean-François Kervégan, dans son livre sur Schmitt et sur Hegel, considère que le décisionnisme, c'est une logique du tiers exclu, un hein, ou bien, qui exclut la pensée dialectique. Il s'inspire en cela d'un texte de Karl Levitt, et il a une section dans son livre qui s'appelle « Dialectique et décision », ou non, ça c'est dans mon livre à moi, mais qui concerne le thème de la dialectique et de la décision, où il considère que le décisionnisme est une pensée antidialectique. Mon propos a consisté à dire « il y a plusieurs sens de la notion de dialectique, il y a la dialectique idéaliste ». Et effectivement, il y a une critique permanente chez Schmitt de la dialectique au sens idéaliste, c'est-à-dire la grande synthèse hegelienne, l'idée que toutes les oppositions mènent à la réconciliation dans l'histoire, la philosophie de l'histoire, hein, en tant qu'elle est, en tant qu'elle est aussi quelque chose qui met en... chez Kant et chez Hegel, qui mobilise la notion de dialectique. Mais il y a aussi un sens matérialiste de la dialectique, qu'on trouve chez Hegel dans la logique de l'essence, ou que Lénine et d'autres ont bien voulu voir dans la logique de l'essence de Engels. Donc il y a un sens matérialiste de la dialectique, et je ne voyais pas du tout, en repartant notamment de la lecture précise d'un chapitre qui s'appelle « Dictature et dialectique dans Parlementarisme et démocratie », je reprenais la lecture que faisait Jean-François Kervégan en disant « il n'y a aucun moment où, au fond, Carl Schmitt dit que le décisionnisme exclut l'idée de dialectique. Et au contraire, quand on prend le glossarium et certaines de ses notes, il se réclame ou semble se réclamer d'une certaine compréhension de la dialectique. Donc cette dialectique au sens matérialiste, c'est un antisubstantialisme radical. Donc c'est lié à la notion de nominalisme. C'est le refus des... de considérer que le réel est homogène à la logique, hein, et que le réel est homogène à la logique et à ses enchaînements de catégories. Donc c'est un peu ce que j'ai fait c'était ma thèse, hein, une de mes thèses, de considérer qu'il y a une dialectique en un certain sens dans la pensée schmittienne. Alors, pourquoi j'ai pas seulement cherché à dégager cette épistémologie latente, j'ai essayé de comprendre pourquoi Schmitt la taisait, pourquoi il y avait un art d'écrire chez Schmitt. Je ne suis pas du tout la première à le dire, hein, ça c'est Olivier Beau le dit notamment, qu'il y a un art d'écrire. Donc Schmitt est quelqu'un qui code énormément concernant ses sources. Ça, je crois que c'est avéré. C'est-à-dire qu'il ne nous dit pas, il cite pas certaines sources. Des fois, il gomme des sources de ses livres et puis ensuite, elles réapparaissent plus tard selon les circonstances politiques. Et puis, il ne dit pas toujours ce qu'il fait. Donc, ce qui m'a semblé décisif, et que j'ai découvert en lisant des livres en Allemagne, c'est qu'en fait, non seulement le marxisme était persona non grata dans l'université allemande, ce qui était ça assez clair, mais le matérialisme. C'est-à-dire que le matérialisme, c'était en fait une philosophie, parce que c'est quand même une philosophie qui était vilipendée, notamment par beaucoup de philosophes, mais aussi par les juristes. C'est-à-dire que même les compagnons de route de Schmitt, Kaufmann, Trippel et d'autres, dans leurs livres de méthode et leurs livres les plus épistémologiques, disent que le matérialisme, c'est pas du tout acceptable. Et le critiquent dans des termes qui sont un peu légers, en fait, du point de vue philosophique, mais on voit bien que c'est vraiment... Et je découvrais que Schmitt était lui-même conscient qu'il y avait évidemment ce combat et qu'il parle dans certains de ses textes d'une notion polémique de matérialisme qui est en cours dans l'université allemande. Bien. Donc il me semblait qu'il y avait toute une polémique, hein, autour du matérialisme qui fait qu'on le confondait avec le scientisme, on le confondait avec l'économisme, on le confondait avec l'anthropologie utilitarisme, et que finalement c'était synonyme d'absence de culture ou d'absence de valeur ou de déclin de la civilisation, et que toutes ces choses-là faisaient que il n'était pas facile de dire, enfin de, et puis aussi parce que ce sont des juristes, hein, ce ne sont pas des philosophes, si on avait une méthode matérialiste, de le dire directement. Bien. Donc, il me reste encore à peu près combien de temps ?
Normalement 5 minutes.
Normalement 5 minutes. Bien. Donc, je vais passer sur l'épistémologie. Je vais clore là. Sur la question de l'impérialisme, je prends chapitre par chapitre dans mon livre. Sur la question de l'impérialisme, alors, ce que je montre dans le troisième chapitre de ma thèse, c'est que, donc, que Schmitt, dans le Nomos de la Terre, et sans le dire, alors là, il n'y a même pas une seule phrase pour le dire, il le dira jamais, en fait. Alors, il a écrit des textes sur l'impérialisme très tôt, mais il dialogue qu'avec des sources de droite. C'est très clair. Donc, il fait des petites bibliographies dans ses textes sur l'impérialisme, mais il dialogue avec Joseph Schumpeter, avec Werner Zombart, et avec un juriste et économiste de droite qui s'appelle Karl Brinkmann. C'est à chaque fois les auteurs de référence qu'il cite sur la question de l'impérialisme. Mais lui reprend la notion d'impérialisme dans des textes qu'il a écrits assez tôt. Il me semblait que même le livre du Nomos de la Terre reprenait dans sa structure la théorie, dans ses effets, venait d'une application de la théorie de l'impérialisme au droit international. Donc je considérais qu'il ne décrit pas ce qu'il applique, ou qu'il ne décrit pas, mais qu'il ouvre un programme de recherche en disant, le droit international est peut-être en partie à réécrire, si ce n'est pas seulement le développement de l'humanisme occidental, hein, s'il a des débuts dans la violence, par exemple la conquista, etc. Il me semble qu'il reprenait beaucoup de choses à tout ce que les premiers théoriciens de l'impérialisme ont dit, hein, Hobson, Hilferding, mais aussi ce qu'on peut appeler les Engelsiens, et puis Rosa Luxembourg et Lénine. Il me semble que cela livrait des clés du Nomos de la Terre. Ce que j'ajoutais, c'est qu'il n'y a aucune commune mesure entre les théoriciens du Marktstaat, donc de la réelle politique, les théoriciens étatistes, qui affirment que la politique, c'est la politique de puissance, et les théoriciens de l'impérialisme. C'est-à-dire qu'il y avait un tel différent politique qu'en fait, il n'y avait pas de chemin pour passer de l'un à l'autre. Et à mon avis, c'est ce qui fait que Schmitt a une position particulière, c'est qu'il n'y avait pas de... On ne peut pas subsumer sous l'étiquette théorie de la politique de puissance, deux choses aussi différentes que la théorie du Marxstaat et la théorie de l'impérialisme. Il n'y avait vraiment pas de liaison entre les deux. Donc c'est pour ça, à mon avis, que Schmitt fait quelque chose qui était vraiment de l'ordre du... dans la science, pour les juristes internationalistes, quelque chose que personne n'a fait avant lui pour la science allemande. Je ne parle du droit, je ne parle que de ce que je connais. Donc, et à mon avis, c'est une des clés parce qu'il va commencer à dénoncer l'aveuglement de ses compagnons de route, Heinrich Trippel notamment, qui a écrit un livre qui s'appelle Die Hégémonie en 1938, qui paraît en 1938, donc un an avant la conférence sur les grands espaces. Schmitt est très critique vis-à-vis de Trippel petit à petit. C'est-à-dire qu'il considère que Trippel, il n'a rien compris à ce que c'est que l'impérialisme. Pour lui, l'Empire, c'est l'Empire romain. Donc il n'a pas compris que finalement, l'impérialisme, ce n'est pas l'extension sur la sphère étrangère de l'État souverain, que l'impérialisme, ce n'est pas simplement des annexions de territoire ou l'oppression antidémocratique, ou, etc. Donc finalement, il se met à se distinguer des juristes de son propre camp. Parce qu'ils sont trop étatistes et ils restent trop dans les dualismes du positivisme en réalité, le dualisme entre droit interne et droit international, le dualisme entre droit privé et droit public, dualisme que Schmitt déconstruit, notamment dans un texte très important qui s'appelle « Des deux dualismes », je ne sais plus la fin du titre, mais sur les deux dualismes, texte que Emmanuel Pasquier a traduit, il me semble. Bien, alors... Sur la question, les preuves que j'avance pour dire il y a de la théorie de l'impérialisme chez Schmitt, puisqu'il ne nous dit pas, je reprends Lénine. Bon. Il nous dit, et à mon avis, c'était ma preuve la plus... Enfin, j'aimerais, si on veut me réfuter, à mon avis, c'est sur celle-là qu'il faut, à celle-là qu'il faut s'attaquer. C'est quand à chaque fois qu'il écrit sur l'impérialisme, il nous dit, lisez Karl Brinkmann, le juriste et économiste, qui est quelqu'un qu'il estime énormément. Lisez Karl Brinkmann, hein, qui est à la fois juriste et économiste. Schmitt n'est pas économiste. Et quand on va voir ce qu'écrit Brinkmann, qui n'est plus tellement lu aujourd'hui, mais qui est quelqu'un d'absolument brillant, on lit Brinkmann, et Brinkmann écrit la chose suivante, lisez Rosa Luxembourg. C'est elle qui décrit le mieux ce qu'est la politique mondiale aujourd'hui. Brinkmann, qui est un juriste de droite, hein, dit texto, et il réfute la théorie de Joseph Schumpeter sur l'impérialisme, en disant texto, mais il reprend un langage qui est le langage des marxistes, et lui cite ses sources de façon candide, hein, alors que Schmitt ne fait jamais ça, il est toujours très très circonspect, il va dire la théorie de Joseph Schumpeter sur l'impérialisme, sur le fait que la thèse de Schumpeter, c'est que l'impérialisme, c'est quelque chose de rétrograde, c'est pas quelque chose qui caractérise la politique de l'avenir, ça vient non pas du capitalisme, mais au fond des routines, des castes militaires qui sont irrationnelles d'un point de vue économique. Hein, ça vient de vieilles habitudes de la caste militaire. C'est ce que dit Schumpeter sur l'impérialisme. Schmitt la réfute, cette idée-là. La réfute exactement comme Karl Brinkmann. Mais Karl Brinkmann, quand il dit ça, il dit « Mais Schumpeter, c'est du libéralisme intenable. » Et au fond, la seule chose qu'on a opposée à ça, c'est Rosa Luxembourg. Voilà. Et Schmitt ne nous dit pas « Allez lire Rosa Luxembourg », mais il nous dit « Allez lire Karl Brinkmann », qui dit « Allez lire Rosa Luxembourg ». Voilà. Donc, à mon avis, ça, ce sont des choses qui, au niveau de... Il y a une politique des sources chez Schmitt. Bien. Il me reste encore pas énormément de temps, donc oui, je vais parler de la notion de guerre civile mondiale maintenant, hein, qui est le quatrième chapitre de ma thèse, très rapidement. Donc, la notion de guerre civile mondiale, j'en avais donc déjà un petit peu parlé, puisque j'ai donné ce titre à un livre de Schmitt, en fait, qui n'est pas un titre de Schmitt. Il se trouve que c'est Schmitt l'inventeur de la notion, ce que je ne disais pas encore dans le livre précédent, hein, qui était un livre de Schmitt, dont je faisais la préface. Je croyais que c'était en même temps Ernst Jünger et Schmitt. Il se trouve qu'on a trouvé, avec Günther Maschke, un texte de 39 où on voit que c'est Schmitt qui est l'inventeur. Qu'est-ce que désigne la notion de guerre civile mondiale chez Schmitt ? Notion qui est reprise, alors qui a été reprise par Ernst Nolte, hein, l'historien Nolte, qui est reprise par Habermas très souvent, hein, qui est devenue en Allemagne une notion tout à fait courante. Il y a quelques contresens à ne pas faire, à mon avis. Ça ne désigne pas chez Schmitt au départ, puisque c'est une notion qui apparaît en 1939 chez lui, ça ne désigne pas la guerre froide. Hein. Avant tout, ça ne désigne pas la guerre froide, ça ne désigne même pas non plus au départ, dans les premiers textes, que Nolte appelle la guerre civile européenne, donc l'opposition entre fascisme et bolchevisme après la Première Guerre mondiale en Europe. ça ne désigne pas cela, ça désigne un changement de structure du droit international. C'est dans ces termes-là qu'il en parle dans les premiers textes, c'est-à-dire l'avènement d'une ère d'intervention dans les affaires intérieures des États qui excède tout ce que le droit international classique permettait, et le transfert d'une logique pénale et policière au droit de la guerre. Donc c'est ça qu'il décrit comme étant la guerre civile mondiale. C'est l'idée que vous connaissez tous, je crois, ou presque par ailleurs, que les guerres ressembleront de plus en plus à des opérations de police et que la distinction entre l'armée et la police sera de plus en plus floue et qu'au fond, la guerre, enfin, qu'il n'y a plus de politique extérieure au sens classique, mais la guerre, finalement, peut s'interpréter comme un acte de politique dans une politique intérieure mondiale. C'est plutôt ça qu'il décrit. Voilà. Et c'est lié à l'avènement de l'interventionnisme américain. Donc Schmitt ne dit pas que les Américains sont interventionnistes par nature et en général, c'est faux. Ce qui l'a probablement traumatisé, c'est l'entrée en guerre des États-Unis en 1941. Et c'est possible qu'il y ait eu là une sorte de choc qui a provoqué des analyses et une certaine production schmittienne. Donc la théorie de la guerre juste, finalement, c'est ça dont qu'il diagnostique. Il diagnostique une nouvelle théorie de la guerre juste, une théorie de la guerre juste qui est positivée, qui est sécularisée par rapport à la théorie médiévale, qui est liée donc politiquement à l'avènement des États-Unis comme première puissance mondiale, puisque les ennemis de tous ces juristes-là dans l'entre-deux-guerres, ce n'était pas les États-Unis, c'était l'Angleterre. Le paradigme, c'était la guerre entre États et surtout le conflit entre l'Angleterre et l'Allemagne. Je vous montre que pour les Rankiens, par exemple, c'était absolument central. On pensait tout dans l'hostilité entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et finalement, ça s'est dépassé au cours du temps. Et ce qui devient le fait premier pour Schmitt petit à petit, c'est pas ce qu'il appelait l'hypocrisie des Anglais. C'est-à-dire que les Anglais qui sont toujours à faire des réserves de droit international, qui sont dans la politique de puissance et qui minent, qui sapent les règles de droit qu'ils édictent ou auxquelles les traités qu'ils signent, ce qui paraissait déterminant, c'est l'idéalisme de la loi chez les Américains. Et c'est sous cette forme-là que va naître une nouvelle guerre juste. C'est-à-dire l'idée que la légitimité démocratique prévaut sur toute la légalité en droit international, et que les entorses au formalisme du droit international sont d'avance justifiées par les fins poursuivies par la guerre. Les fins qui sont la démocratie, la défense des droits de l'homme, le bien, etc. Voilà. Donc la thèse de Schmitt, c'est que le droit international au XXe siècle n'est plus un nomos. Enfin, s'il ne règle pas la question de la guerre civile, puisque les guerres sont de plus en plus des guerres civiles et que la guerre au XXe siècle devient une guerre civile mondiale, s'il n'affronte pas cette question de la guerre civile, il n'est plus capable de réguler les guerres, de limiter leur violence, et qu'il y a tout un travail à faire, conceptuel notamment, pour que le droit se mette à relimiter les guerres si on ne veut pas tomber dans la moralisation du droit et dans les excès.